l'Éden de Satan numéro 184, l'alliance du mariage numéro 2, le deuxième commandement, tu n'auras pas d'idole. Dimanche 8 septembre 2024, Brian Kokurek, pasteur. Père bienveillant, nous sommes si reconnaissants, Seigneur, d'être ici, même si nos musiciens ne le sont pas. Mais cependant, nous savons qu'elles se font sentir ici. Nous connaissons vraiment leur objectif. Et je suppose que, Seigneur, nous nous rendons compte à quel point nous avons besoin d'elles. Alors, Seigneur, nous te remercions pour cela. Et, tu sais, tu as dit fait un bruit joyeux. Cela n'a donc pas d'importance, mais nous nous en soucions, et donc, Père, nous te prions simplement de bénir et de sanctifier le service. En fait, il s'agit de la dernière, de la deuxième alliance du mariage. Et la plus importante, je pense. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je dis la plus importante, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, c'est la plus importante. Mais ce matin, nous allons examiner le deuxième commandement. Tu n'auras pas d'idole, ni d'image taillée. Et donc, il a dit, le but de ne pas avoir ces images, c'est que vous serez amené à les adorer et à les servir. Donc, je vais parler sous un angle différent ce matin, parce que nous pensons généralement à une image, oh, c'est une idole, ou une image, une statue, oh, c'est une idole. Non, regardons la vraie image que nous ne sommes pas censés adorer. Ainsi, dans Exode 20, 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Maintenant, remarquez cela, tu ne les serviras point. Maintenant, comment servir une image en bois ou en pierre? Comment servez-vous une statue de Joseph ou de Marie? Vous n'adorez pas? Vous ne les servez pas. Elles sont mortes. Elles sont inanimées, mais ils parlent de quelque chose que vous pouvez servir. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les enfants, sur la troisième et sur la quatrième génération de ceux qui me haïssent, si ceux qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment, n'est-ce pas merveilleux? Et qui garde mes commandements. Voyez-vous, je ne fais pas attention au verset 5. Vous le savez, parce que je n'ai pas d'image taillée et que je ne hais pas Dieu. Mais au verset 6, il est dit, j'aime Dieu, et il me fait miséricorde. Maintenant, je souhaite vous montrer une compréhension plus profonde de ce deuxième commandement. Une compréhension que nous n'avons jamais examinée auparavant. Une compréhension qui est peut-être quelque chose à laquelle vous n'avez jamais pensé auparavant. La plupart des gens lisent cela comme si nous ne devions pas faire d'icônes ou de statues à adorer. Eh bien, c'est vrai dans un sens, pour un païen ignorant, mais pour les enfants de Dieu? Eh bien, et ces commandements sont les commandements du Père. Ce sont donc des commandements adressés aux enfants de Dieu. 1. Mais cela va bien plus loin que la simple fabrication de statues d'argile, ou la peinture d'un tableau et leur vénération. Nous lisons dans Apocalypse 13 que les États-Unis sont l'image, l'image de la bête. Eh bien, n'a-t-il pas dit, tu ne feras pas d'image taillée? L'image de la bête. Donc, nous ne parlons pas ici de statue comme si nous allions vraiment servir la statue, à moins que vous ne soyez une personne totalement superstitieuse. Eh bien, j'ai été dans des pays, et j'ai vu, des croyants partout dans le monde, mais il y en a encore qui s'accrochent à leurs coutumes comme s'ils ne le feraient jamais, mais alors jamais. Si un bébé était par terre, ils ne passeraient jamais, mais alors jamais sur un bébé. Et ils ne coupent pas les cheveux de leur bébé avant l'âge d'un an. Et il y a certaines superstitions qu'ils ont, et je suppose que nous avons les nôtres, un couteau et une cuillère d'un côté, et les fourchettes de l'autre côté. C'est une coutume, pas une superstition. Mais c'est comme ça que nous sommes. En fait, je n'avais jamais mangé avec un couteau auparavant, jusqu'à ce que j'aille en Europe, et j'ai vu comment ils poussaient, en quelque sorte, la nourriture contre leur fourchette, mais ils retournaient leur fourchette à l'envers. Je n'ai jamais compris ça. Je veux dire, vous en aurez plus si vous le mettez à l'endroit. Maintenant, peut-être qu'ils le mettent à l'envers, pour qu'ils mangent moins. Je ne sais pas. Mais de toute façon, j'aime manger. Alors il dit 11 et je vis une autre bête montant de la terre, et elle avait deux cornes semblables à un agneau, et elle parlait comme un dragon. Alors, elle parlait comme le diable et ressemblait à un agneau, mais c'était une bête. Remarquez que ce sont les États-Unis d'Amérique selon le prophète de Dieu. Il nous a enseigné que les États-Unis sont l'image de la bête. Maintenant, pensez à la bête, d'accord? La bête est toute pompeuse. C'est une hiérarchie. Ce sont des vêtements chics, une coiffe fantaisie. Tout le monde adore, le prêtre est là-haut, et il a toutes ces belles choses, de l'or et de l'argent et tout le reste. Et qu'est-ce que l'Amérique est devenue? C'est la même chose, la Odyssée. Tout est une question d'habillement, tout est une question de pompe, tout est une question de cérémonie, tout est une question de classe sociale, et frère Branham détestait les histoires de classe sociale. 12 Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, que nous savons être Rome, et fait que la terre, c'est tous les peuples du monde, et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Donc, notre Hollywood a expédié notre musique, a expédié notre rap, a expédié nos codes vestimentaires. A expédié, pas les codes vestimentaires, mais l'absence de ceux-ci. Vous savez, les tatouages, les boucles d'oreilles, les anneaux de nez et le faste. Vous avez une bague à chaque doigt, vous avez 3 ou 4 chaînes à votre poignet, vous avez toutes sortes de choses qui font que le monde vous regarde, eh bien, c'est l'Amérique. Et c'est le catholicisme romain. 13 Et elle fait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Remarquez à la vue des hommes. Ce n'est pas vraiment arrivé, mais ils le font à la vue des hommes. Vous savez, vous avez la télévision impliquée avec la NASA. Il y a votre NASA et la DARPA, il y a vos programmes télévisés et votre Hollywood. Maintenant, je veux dire, bien sûr, nous avons des satellites et des choses comme ça, il n'y a aucun doute, Mais sommes-nous allés sur la Lune? Je ne sais pas. Le prophète a dit, je ne pense pas que nous y arriverons un jour. Et si nous n'y arrivons, nous ne trouverions rien. Alors, quel est le but de visiter la Lune? Il n'est pas fabriqué à partir de fromage, donc il ne va pas nourrir tous les pauvres du monde qui figurent sur les programmes de fromage. 14 Et elle trompe ceux qui demeurent sur la terre, remarquez, trompe, séduit ceux qui demeurent sur la terre, par le moyen de miracles dont elle avait le pouvoir d'utiliser en présence de la bête, disant à ceux qui demeuraient sur la terre, qu'ils devraient faire une image à la bête, qui est l'Amérique, qui avait été blessée par l'épée, mais qui vivait. Ok, voici donc votre image dont je vais parler. Et il a dit de ne pas la servir. Vous ne devez pas non plus l'adorer. Maintenant, pourquoi pensez-vous que le monde entier est venu illégalement sur nos terres, pour franchir illégalement nos frontières? Je veux dire que tout ce discours sur rendre à l'Amérique sa grandeur amène les gens à adorer et à désirer servir l'image de la bête. Si vous regardez ces rassemblements politiques, c'est presque une religion pour le peuple. Vous ne pouvez pas rassembler 100 000 personnes pour Jésus-Christ. Si Jésus-Christ venait dans votre ville, vous pourriez avoir une poignée de personnes. Vous n'auriez pas les 30 000 ou 40 000 personnes, comme ils le font dans ces rassemblements politiques. 15 Et elle eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête non seulement parle, mais qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. 16 Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque dans la main droite, ou dans leur front. Et frère Branham a dit, la marque qui est sur leur front, c'est en réalité dans leur pensée, c'est où vous pensez. Et la marque qui est dans leurs mains et dans leurs actions tant que résultat des pensées dans leurs pensées. L'homme est tel qu'il pense dans son cœur. Je dis dans votre pensée ou dans vos actions, parce que c'est ce qu'un prophète confirmé nous a enseigné, et nous croyons, et nous savons mieux. En d'autres termes, nous croyons ce que dit le prophète. La marque de la bête 13 mai 5474. Maintenant, vous voyez ce qu'est la marque de la bête? C'est la marque de l'apostasie. C'est une personne qui pense simplement, eh bien, je suis membre d'église, et je suis tout aussi bon qu'un autre. Ne suis-je pas membre de cette église? Et vous comprenez-vous d'où vient l'organisation de votre Église, dont vous dépendez, d'où elle vient? Comprenez-vous? La Bible a dit, celui qui adore la bête, reçoit sa marque, ou la lettre de son nom, ou regardez bien dans le front ou la main, ça, c'est la connaissance ou l'action. Eh bien, ça, c'est un prophète confirmé. Ça ne veut pas dire que vous avez un gros tatouage sur le visage. Ça n'a pas besoin d'être ça. Il ne parle pas de l'extérieur. Il parle du spirituel. 3. C'est pourquoi je dis cette femme, elle n'est pas votée. Dans toutes les citations que j'ai vues, il y en a au moins 12, elles disent toutes qu'elle s'élève et 2 d'entre elles disent qu'elle prend le contrôle. Maintenant, vous ne pouvez pas prendre le contrôle ou le relais à moins d'être vice-président pour commencer. Donc, je ne crois pas, et je vais le dire officiellement, je ne crois pas, qu'il y aura des élections cet automne. Je ne le crois pas. Je crois qu'ils ont déjà couronné cette femme, parce qu'elle n'est rien d'autre qu'une chambre de réverbération de leurs pensées. Eh bien, je sais que frère Branham a dit que cela pourrait être l'Église catholique. C'est possible. Cependant, c'est toujours dans la dualité. C'est dans le domaine spirituel et dans le domaine naturel, nous devons avoir cette femme, c'est l'optique. La marque de la bête 13 mai 54. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu prouve qu'il n'est pas dans une organisation. Il est dans l'Esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oui monsieur. Votre organisation, ça lui est bien égal. C'est absurde. C'est lié au catholicisme, ça y retourne, et ça y reste, et vous recevez la même marque qu'elle. L'ange n'a-t-il pas dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et ne participez point à ses péchés, et je vous recevrai? Ne touchez pas à sa souillure, et je vous recevrai, c'est le Saint-Esprit qui parle. 72 Et quiconque prendra la marque de la bête, ou la lettre de son nom. J'aimerais qu'on ait le temps d'aborder cela. Mon temps est écoulé. Qu'est-ce que la lettre de son nom? Le protestantisme. Et permettez-moi de dire ceci, s'ils finissent par se rendre aux élections, je ne pense pas que ce sera cet automne comme d'habitude, mais s'ils le font, nous serons partis. Nous n'allons pas participer à cette chose. Faisons-nous une image qui lui soit semblable. Faisons une organisation. Alors, quelle est votre image de la bête? Eh bien, l'image de la bête, c'est l'Amérique. Et qu'est-ce que l'organisation? Quelles sont vos églises, vos dénominations? Elles en sont une image. Notre église est aussi grande que l'église catholique. Ce sont vos dénominations. Ils ont pris toutes ces choses. Ils avaient leurs grandes églises, et nous aussi. Nous avons autant de la bourgeoisie de la ville, dans notre église, qu'ils en ont dans la leur. Vous voyez les comparaisons? Ils sont toujours tournés vers l'autre personne. Ils ne regardent pas à Dieu. Ils se tournent vers les gens. Faisons une image à la bête. Et qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'elle est une prostituée, et l'autre, une prostituée, par l'organisation. Or, l'Écriture continue, 17 et que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. 18 Ici est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Alors, remarquez alors qu'il s'agit d'une image nicolaïte, qui est conçue pour être une image de la bête. Vous voyez, je ne pense pas que Joe Biden et Kamala Harris ou l'une de ces soi-disant élites, car ils ne sont pas les élites, ce sont des gens. Maintenant, ils peuvent avoir obtenu leur pouvoir grâce à la duperie, et c'est ce qu'ils ont fait, mais ils ne sont pas différents. Ils mettent leurs pantalons un pied à la fois. Elles ne portent même pas de jupe. Les sœurs, elles portent des pantalons, des tailleurs pantalons. Et donc, ils ne quatre. Sont pas différents. En fait, je pense qu'ils sont des idiots. Je pense qu'ils sont absolument fous. Et le prophète nous a dit que le monde deviendrait fou avant la fin des temps. Nous avons juste une poignée de personnes qui veulent prendre le contrôle de l'Amérique, et ils le font parce qu'ils ont le haut du pavé. Il s'agit donc d'un système. Et à cette époque, elle est à la fois politique et religieuse tout comme la première bête qui fut Rome, c'était la Rome civile. La Bible nous enseigne qu'elle a été blessée comme si elle était blessée à mort, ce qui a eu lieu lorsque les Huns ont attaqué et saccagé la Rome physique, qui était la Rome civile à l'époque. Mais comme je l'ai dit, c'est à cette époque-ci, à la fois politique et religieux, tout comme la première bête, qui était Rome, c'était la Rome civile et c'est ensuite devenu la Rome politique. Frère Branham a dit qu'ils ne peuvent pas le faire sous le format religieux, alors ils doivent aller en politique, et c'est ce qu'ils font. Ensuite, si vous avez étudié sur Rome, elle s'est détournée de la Rome civile et s'est transformée en Rome ecclésiastique, qui est la Rome ecclésiastique, où elle exerçait encore plus de pouvoir que la Rome civile. Remarquez qu'ils avaient un empereur. Maintenant, ils ont le grand saint empereur. Ils sont passés de César, n'importe qui, Néron, au pape. Et c'est exactement ce qu'il a dit dans Exode 20, 5. Tu ne t'inclineras point devant elle, et elle, ce sont des gens, ce ne sont pas des statues, ce sont des gens, et tu ne les serviras point. Des personnes, des gens, ainsi nous voyons que les est un pluriel. Et c'est un pronom qui parle des gens. Il ne parle pas de choses. Il parle de gens. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les enfants, sur la troisième et sur la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Maintenant, si les ne sont pas des gens, alors pourquoi le Seigneur s'est-il tellement fâché quand Israël a voulu être comme d'autres nations, et en fait, à leur image, ils ont dit, ayons un roi qui est un homme, et non le roi qui était Dieu lui-même. Donc, nous examinons cette image qui est en fait nous plusieurs organisations. Alors, saviez-vous que le moment où vous avez formé une organisation, c'est à ce moment-là que vous mourrez devant Dieu? Dieu déteste tellement l'organisation qu'au moment où vous formez une organisation, c'est à ce moment-là que vous êtes séparé de Dieu. Au paragraphe 136 du chef-d'œuvre Frère Branham dit, par contre, tout ce qui a formé une dénomination est mort. Par exemple, la vie qui était en Luther a servi à former Wesley. Et, de Wesley, elle est passée dans la Pentecôte. Et, de la Pentecôte, elle a servi à former la semence originelle. La Pentecôte sort du groupe de Wesley jusqu'à ce moment-ci. La raison pour laquelle la Pentecôte est sortie de Wesley, c'est parce qu'elle n'était aucunement une dénomination, la Pentecôte n'en était pas une. Ensuite la Pentecôte a formé une dénomination, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est devenue la Baal. Elle ressemblait à la chose véritable. Donc, nous avons un principe ici, une fois que vous quittez la parole pure, vous vous organisez et mourrez. En d'autres termes, vous trouvez quelqu'un d'autre qui a la même pensée que vous, qui n'est pas la pensée de Dieu. Et vous dites, écoutez, faisons une organisation. Rassemblons-nous, ayons notre propre façon de faire les choses. 5. Remarquez qu'il a dit, dès qu'elle a commencé à former une dénomination, c'est la même qu'elle meurt. Et donc nous avons vu que la dénomination nous montre que la vie est sortie, parce que former une dénomination signifie fixer une valeur spécifique à cette chose. Quand on parle de monnaie, on se demande quelle est la coupure valeur des billets. Le mot dénomination, selon notre dictionnaire anglais, a plusieurs significations, mais elle parle tout d'un thème central. Pendant que je lis les définitions, je veux que vous réfléchissiez en termes de thèmes qui reviennent dans chacune d'elles. 1. Un grand groupe de congrégations religieuses unies sous une foi et un nom commun et organisées sous une seule hiérarchie administrative et juridique. Tout comme Rome. 2. Une d'une série de types, de valeurs ou de tailles, comme dans un système de monnaie ou de poids, les caisses enregistreuses ont des compartiments pour les billets de différentes valeurs. Il ne mélange pas vos billets de 1$ avec vos billets de 10$, et vos billets de 100$, parce qu'il pourrait vous donner la mauvaise monnaie. Alors, ils ont un compartiment pour les billets de 100, un pour les billets de 5, un pour les billets de 20, un pour les billets de 10, un pour les billets de 5 et un pour le billet d'1$. Les timbres sont disponibles en valeur de 25 cents et 45 cents. 3. Un nom ou une désignation, en particulier pour une classe sociale ou un groupe. C'est pourquoi Frère Branham détestait parler de classe sociale. Et remarquez que chaque exemple de dénomination parle d'une valeur évaluée, d'une certaine taille ou d'un type spécifique. Donc, vous voyez, Lorsque nous pensons en termes de dénomination, nous devons penser en termes de quelle valeur ou évaluation est associée à la dénomination dont nous parlons. Frère Branham avait l'habitude d'allumer la radio, de l'allumer pendant 5 minutes. Ils écoutaient un prédicateur. Ses enfants écoutaient, quand ils voyageaient en voiture, ils l'éteignaient et ils disaient, « Maintenant, de quelle confession, dénomination était-il ?» Et les enfants étaient censés écouter attentivement le type de doctrine qu'ils prêchaient. Et alors, ils pouvaient dire s'ils étaient pentecôtistes, baptistes ou quoi que ce soit. Et vous aussi pouvez le faire, si vous y réfléchissez. Parfois, vous les entendez, c'est juste un peu du charabia en arrière-plan. Mais si vous les écoutez, c'est très défini. Ils ont leur propre chose. Il y a certaines valeurs qu'ils attribuent à la parole, et c'est aussi loin qu'ils vont. Si je dis de quelle confession ils sont, ils vous disent automatiquement quelle doctrine ils croient. Et peu importe ce à quoi ils s'accrochent, car un prophète confirmé nous a dit que lorsqu'ils forment une dénomination, ils meurent sur place. Donc, vous voyez que de former une dénomination signifie une mort certaine pour l'Église. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la vie l'a quitté, et qu'il s'accroche maintenant à une valeur qu'il se sent attribuée. En d'autres termes, si la parole qu'il prêchait sur laquelle ils insistaient était une certaine chose, alors quand Dieu apporte plus de lumière sur cette certaine chose, ils ne l'accepteront pas car ils ont déjà les valeurs qu'ils avaient données à cette chose. C'est pourquoi les gens ne pouvaient pas accepter Jean 14, 12. Ils ont formé une dénomination. 6. Ils ont formé une dénomination autour de la parousia et autour de la divinité. Et ils ont simplement abandonné la parole. Mais vous voyez, la parole est une parole et croyez tout. Ô insensé et cœur lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Et si les gens voient que cette chose n'a pas la même valeur pour eux que la chose qu'ils ont déjà, alors ils la rejettent et c'est là qu'ils ont formé une dénomination. Comme quand le Saint-Esprit m'avait parlé et qu'il avait dit, quand je suis allé à un certain endroit pour voir une certaine chose se produire. Et le Saint-Esprit dit, Ichabod. Et donc, j'ai dû rentrer chez moi et chercher le mot et le découvrir. Cela signifie l'Esprit du Seigneur s'en est allé. D'accord. En d'autres termes, ils ont choisi de regarder un match de football à la place, alors ils ont annulé le service de communion. Ils ont interrompu le service de communion pour aller voir un match de football, pour regarder un Super Bowl. Et là-bas, Dieu ne peut plus les aider parce qu'ils ont rejeté toute autre lumière de sa parole. C'est pourquoi ceux qui s'en tiennent à l'attitude « Dieu soit béni, nous avons un prophète » et ne s'ouvrent pas à d'autres ministères que Dieu donne à l'Église, tels que le quintuple ministère. Et il a dit, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parfaits ou matures et que nous parvenions à l'unité de la doctrine du Christ, et nous n'y sommes pas encore arrivés. » Et donc, le quintuple ministère est toujours à la disposition des gens. Alors ces gens se tarissent et la vie s'en va. À moins, bien sûr, qu'ils ne croient tout ce que dit le prophète et qu'ils comparent ce que dit le ministre avec ce prophète. En d'autres termes, si le prédicateur dit ce que le prophète dit, et qu'il le voit, ce n'est pas grave. Mais s'ils disent, « Je n'ai pas besoin de vous, même si vous le dites parce que j'ai le prophète », là vous avez tort. Et que se passe-t-il si Dieu leur envoie un docteur et qu'il refuse l'enseignement, alors il refuse le Saint-Esprit, parce que l'apôtre Jean nous a dit que le Saint-Esprit est le docteur. Et si ce docteur s'en va et que les gens refusent tout autre don que Dieu a placé dans l'Église, alors les gens n'arriveront jamais à la maturité et la vie continuera et ils se tariront et manqueront ce que Dieu continue de faire à travers les dons qu'il a placés dans l'Église. Maintenant, je peux vous montrer où Dieu a placé le quintuple ministère dans l'Église. Montrez-moi où il les en a sortis. C'est aussi simple que cela. D'accord. Paul nous a dit que le quintuple ministère est pour le perfectionnement de l'Église. Est-il déjà perfectionné? Cela signifie la fin, la maturité et la pleine expression. Cela a-t-il déjà eu lieu? Ainsi, refuser le quintuple ministère et en faire un ministère unique ou double signifie que les gens ont accordé une certaine valeur à ce ministère ou à ces deux ministères, et qu'ils se sont coupés de toute lumière supplémentaire sur la parole de Dieu. C'est comme une église appelait, et pour emprunter une expression, une église appelait un certain prédicateur le chef. Eh bien, vous en faites le chef, alors vous refusez le prophète. Maintenant, je ne parle pas de lumière supplémentaire, comme si cette lumière était de la lumière supplémentaire. Je parle d'une compréhension plus poussée de la lumière que Dieu nous a déjà donnée. 7. Alors, vous dites, eh bien, nous avons eu un frère tel ou tel et nous n'avons pas besoin d'un autre. Vous savez que c'est tellement charnel que vous ressemblez exactement à l'église de Corinthe où Paul a dit, les uns disent, je suis d'Apollo, et d'autres disent qu'ils sont de Céphas, et d'autres disent qu'ils sont de Paul, et puis l'apôtre Paul a dit, n'êtes-vous pas charnel? Apollo est-il mort pour vous? Céphas est-il mort pour vous? Paul est-il mort pour vous? C'est 1 Corinthiens 12. En voici ce que je dis, c'est que chacun de vous dit, moi, je suis de Paul, et moi, d'Apollo, et moi, de Céphas, et moi, de Christ. 13 Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? Et encore, dans 1 Corinthiens 3, il a dit au verset 1 et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants Christ. 2 Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter, et même maintenant encore vous ne le pouvez pas, 3 car vous êtes encore charnels. Car, puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas à la manière des hommes? 4 car quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et l'autre, moi, je suis d'Apollo, n'êtes-vous pas des charnels? 5 qui donc est Paul, et qui est Apollo? Des serviteurs par lesquels vous avez cru, et comme le Seigneur a donné à chacun. 6 Moi, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. 7 De sorte que ni celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. 8 Or celui qui plante et celui qui arrose sont un, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 9 Car nous sommes collaborateurs de Dieu. Vous êtes le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu. 10 Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre édifie dessus. Mais que chacun considère comment il édifie dessus. 11 Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a posé, lequel est Jésus-Christ. 12 Or si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, 13 L'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé par le feu, et le feu l'éprouvera de quelle façon est l'ouvrage de chacun. 14 Si l'ouvrage de quelqu'un qui l'aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. 15 Si l'ouvrage de quelqu'un vient être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même il sera sauvé, toutefois comme à travers le feu. Donc, vous voyez, si la lumière que Dieu continue à répandre par le Saint-Esprit et qu'elle est refoulée parce qu'elle ne vient pas de votre champion, alors cela montre que vous n'avez jamais reçu la lumière et donc la vie de Dieu, mais plutôt le vase que Dieu a utilisé. Et vous savez quoi? Il devient l'image que vous adorez. Je veux dire qu'à l'époque de Daniel, c'était l'image même de Daniel, le saint prophète, que les gens avaient reçu l'ordre d'adorer. Le saviez-vous? Je vais vous donner quelques citations. Remarquez maintenant à quel point la citation suivante est importante, et dans quel sermon il l'a prêché. Dans la marque de la bête 13 mai 54 p. 56 remarquez, quand le roi Nebuchadnezzar, là-bas, au commencement, quand l'âge des gentils a été inauguré. Regardons bien comment il a commencé. Et la manière dont il a commencé, vous verrez qu'il se termine de la même manière. 8. Donc, si c'est venu de cette façon, ça va terminer de cette façon. L'alpha et l'oméga. Donc, vous feriez mieux d'écouter ce que frère Branham nous dit, parce que le même schéma dans l'alpha avec la dispensation des gentils se répète dans l'oméga à la fin de la dispensation des gentils. Maintenant, je ne suis pas responsable de ce que notre prophète vous dit, je suis juste responsable de dire ce qu'il dit. Il n'a jamais dit, jouez la bande de ce que je dis. Il a dit, dites ce que je dis. Donc, vous devez le dire. Nous savons qu'il y a un commencement du temps de la grâce pour les gentils, et une fin de ce temps. Pas vrai? Maintenant, ça, c'est frère Branham. Remarquez bien, là, quand le roi Nebuchadnezzar. Quand Daniel a été envoyé là-bas, un prophète intelligent, alors que tous les autres juifs s'étaient en quelque sorte humiliés et pliés devant les Romains. Ou plutôt devant les Babyloniens, mais il y avait quatre hommes. Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel, qui avaient résolu dans leur cœur de servir Dieu. Et puis, ils ont jeté Shadrach. Et ainsi de suite dans, ainsi, il ne mentionne que le prophète et les croyants, qui étaient les pousses de ce jour-là. Et rappelez-vous, c'était à une époque où Dieu s'était détourné des Juifs et s'était tourné vers les gentils, pendant encore 470 quelques années. Et Daniel était devenu un grand homme, et, aux yeux du roi Nebuchadnezzar et du roi Belshazzar, et ainsi de suite. Quand il est devenu un grand homme, remarquez bien, là, le roi Nebuchadnezzar a fait une statue en or et l'a dressée dans un champ, et il a déclaré que tout le monde devrait se prosterner devant cette image. Avez-vous déjà remarqué comme c'était innocent, très innocent? De qui était fait cette image? C'était Daniel, l'image d'un homme. Et n'a-t-il pas dit, l'esprit des dieux, païens? Et c'est ainsi qu'ils sont aujourd'hui, ils en ont trois ou quatre. Les esprits des dieux habitent en lui, et ils ont fait une image de Daniel. Gardez cela à l'esprit, parce que le monde entier gravite vers l'image de la bête, et les gens dans le message gravitent autour de William Branham. Une image. Vous voyez, quand le ministère de frère Branham a commencé, bien sûr, frère Vell prêchait aux gens. Et la première nuit qu'il a dit, comme Jean-Baptiste a annoncé ma première venue, de même toi, une personne, tu précéderas ma seconde venue. Et les frères l'ont pris à part et lui ont dit, non, tu as tort. Il en sera de même pour ton ministère. Alors, le deuxième soir, il a dit, comme Jean-Baptiste a annoncé ma première venue, de même ton ministère annoncera ma seconde venue. Et puis, frère Branham l'a pris à part. Il a dit, non, tu as tort. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un ministère. C'est le message. De même ton message le fera, car qui est descendu avec un cri? Dieu. Vous voyez? Donc, c'est un message. D'accord. Ainsi, les gens sont arrivés au point d'adorer un homme, William Branham. Tout ce qu'il dit, s'il aime la tarte aux cerises, alors c'est aussi mon préféré. Ce sont juste des gens charnels, pas vrai? Ils ne naissent pas de nouveau. Ils adorent, vénèrent un homme. Maintenant, laissons cela pénétrer pendant un instant. L'image qu'ils ont été forcés d'adorer était Daniel, un véritable prophète. Et il a dit, tous ceux qui ne se prosterneront pas devant cette image seront jetés dans la fournaise ardente. 9. Puis il dit quelque chose d'assez frappant. Remarquez, Daniel n'est plus sur la scène à ce moment-là. Lorsque la fournaise ardente a été mise en place et que la statue a été taillée, Daniel est déjà parti. Il est hors de la scène. Vous voyez ce qu'il a dit, il est hors de la scène. Très bien. Puis il dit, vous comprenez ce que je veux dire? Il a dit, voyez ce que je veux dire. Et quiconque ne se prosternera pas devant cette image sera taillé en pièces, ou jeté dans la fosse au lion, ou brûlé dans la fournaise ardente, ou quelque chose comme ça, un châtiment. C'est comme ça que la dispensation des gentils a commencé, avec une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution pour les forcer à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon, un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui, à adorer, et ainsi de suite. Vous vous souvenez, dans le livre des martyrs, de Fox, il tenait un crucifix devant eux, il leur attachait un bœuf à chaque bras, comme ça, et il disait, si vous ne vouliez pas abjurer, renoncer au protestantisme, et vous faire catholique et baiser ce crucifix, il faisait avancer un bœuf dans un sens, et l'autre dans l'autre sens, et il les écartelait. Il les brûlait au bûcher. Je suis allé là-bas en Belgique, où ils ont toujours les grandes chaînes de fer et les gros anneaux en plein dans le mur, et où ils mettaient les chaînes sur la personne, mettaient les grandes choses. Ensuite, ils prenaient toutes sortes de bâtons et d'autres choses qu'ils mettaient autour d'eux et les brûlaient sur le bûcher. Je pense que tu l'as vu aussi. Tu étais avec moi. Ils ont tout fait. J'étais aux anciennes catacombes. Je sais de quoi je parle. Et, vous voyez, c'est tiré, c'est vrai. Et ils reposent là. Et remarquez comme ils ont traversé cette époque des martyrs, avant Martin Luther. C'est conforme à la Bible, aussi. Lorsque tu résistes à l'œuvre de Dieu sous quelque forme que ce soit, cela montre que tu résistes aussi à Dieu lui-même. Jésus lui-même a dit, Jean 13, 20 en vérité je vous dis, celui qui reçoit celui que j'envoie, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est Dieu. Donc, dire que j'accepte son prophète mais pas son docteur, c'est dire que je ne crois vraiment pas que Dieu puisse tenir parole. Et dire, j'accepte son docteur, mais pas ses apôtres, ses évangélistes, ses pasteurs, etc. signifie que vous êtes charnel, comme l'apôtre Paul l'a dit à l'église de Corinthe. Et être charnel montre que la vie n'est pas là, et donc il ne s'appuie que sur la forme. Ayant une forme de piété mais reniant la puissance. Eh bien, qu'est-ce qu'une forme de piété? C'est une image. C'est ce qui est présenté. Vous vous présentez comme une image de ce qu'un chrétien devrait être. Ainsi, ils adorent le vase au lieu du Dieu du vase. Tout comme à Rapid City, j'ai connu des gens dans les années 70 et 80 qui avaient une place pour frère Branham à leur table tous les soirs en espérant qu'il les ressusciterait et viendrait dîner avec eux. Je pense que c'est assez charnel. Vous voyez à quel point les gens peuvent devenir sectaires. Ayant une forme de piété d'être comme Dieu et niant la puissance, et Dieu nous a dit que la puissance de Dieu, c'est sa parole. Dans son sermon intitulé « La semence n'hérite pas avec la balle » 18 février 65 p. 65, frère Branham parlait de la façon dont Sarah a essayé de réaliser la promesse en donnant sa concubine à Abraham. Elle pense à 10. Que cela pourrait accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Mais la promesse était à Abraham et à Sarah, ce n'était pas à Agar. Et c'est ainsi que pensent toujours les croyants charnels. Ils ne font pas confiance à Dieu pour réaliser ses propres promesses, parce qu'ils ne font vraiment pas confiance à sa parole. Oh, c'est peut-être bon pour vous, mais ce n'est pas bon pour moi. Voyez-vous, avec moi, je dois avoir autre chose. Alors, ils essaient de les résoudre par eux-mêmes et, ce faisant, ils manquent toujours la promesse. C'est ce que frère Branham disait dans ce sermon. La semence n'hérite pas avec la balle 18 février 65 p. 65. Combien c'est vrai, Sarah essayant de faire que les promesses s'accomplissent toutes, vous voyez? Dans un grand, comme l'église aujourd'hui, un grand réveil dans notre temps, par quoi? Par une promesse pervertie. Ainsi, chaque réveil depuis l'époque de frère Branham n'a été que par une perversion de la parole. Comme ce qui s'est passé là-bas dans le Kentucky, c'était un réveil organisé par une organisation. Ce n'est pas un réveil. Comment allez-vous le faire alors que Dieu n'a jamais béni les organisations? Il n'a jamais utilisé une organisation. Lorsqu'un message vint et qu'ils s'organisèrent, elle mourut à ce moment-là. Je défie n'importe quel historien de me montrer où elle s'est relevée. Elle est morte à ce moment-là et en resta la même. Dieu sortit tout droit de ce porteur pour entrer dans un autre. Sortant des luthériens, pour entrer dans les méthodistes, sortant des méthodistes pour entrer dans les pentecôtistes. Maintenant, il est sorti des pentecôtistes pour entrer dans la semence, parce que ce devait être la semence. Vous ne pouvez pas battre la nature. Pour elle, il n'y a rien d'autre que la semence qui puisse arriver. Ainsi la semence se reproduira, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La même colonne de feu, montrant les mêmes signes, la même puissance, le même Dieu, les mêmes miracles, les mêmes choses. Confirmant exactement la parole et la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous conduit ce soir. Ô Dieu, aide-nous à le voir et à le croire. Certainement. De son message Jéhovah Jireh 9 février 61 p. 48 il a dit, qu'est-il arrivé à Luther aussitôt qu'il a vu la colonne de feu? Eh bien, il l'a suivi. Mais qu'a-t-il fait? Après le jour de Luther, ils ont organisé une église appelée Église luthérienne. Alors elle est morte juste là aussitôt qu'elle s'était organisée, parce qu'elle est devenue exactement comme l'Église catholique. Et puis, aussitôt après, Wesley est venu. La colonne de feu est directement sortie de l'organisation et a continué son chemin. Wesley l'a vu, et l'a suivi. Et aussitôt que ceux de la première génération sont morts, ils l'ont organisé, et l'ont appelé l'Église méthodiste wesleyenne, ou plutôt l'Église méthodiste. Lorsqu'ils l'ont organisée, elle est morte aussitôt. C'est pourquoi frère Branham, lors de ce voyage de Tucson à Jeffersonville où il a été tué au Texas, avant de partir, il a dit aux frères qu'il existait alors 17 versions différentes du message. Qu'est-ce que c'est? 17 organisations différentes. Aujourd'hui, il y en a probablement 200. Je veux dire, il y a toutes sortes de vos sept tonnerres, vos deux âmes, votre ceci, votre cela, c'est juste de l'organisation. Ensuite, les pentecôtistes l'ont vu, ils sont sortis, non pas de la justification, sous Luther, ni de la sanctification sous Wesley, mais ils ont vu le baptême du Saint-Esprit, le retour à la bénédiction originelle. Alors ils l'ont suivi, oh là là. Ils sont sortis et ont commencé à parler en langue, et la puissance de Dieu agissait à travers eux. 11. Mais qu'ont-ils fait? Ils l'ont organisé. Celle-ci est morte aussitôt. Mais maintenant, la colonne de feu est en train de sortir. Elle avance de nouveau. Elle ne va jamais, 49 jamais une organisation ne s'élever sans qu'elle ne meure pour ne plus jamais se relever. Je lance un défi à n'importe quel historien. Qu'ont-ils fait? Ils ont organisé la Pentecôte et ont dit, vous devez avoir des langues, et une fois qu'ils l'ont fait, elle est morte. Et le message, Dieu est descendu avec un cri. Et donc, vous voyez, dès que les hommes commencent à parler d'organiser le message ou la doctrine de Christ, ou dès qu'ils essaient de prendre en charge le ministère d'un homme, ils l'ont fait pour le mien, soit pour le protéger, soit pour quelque motif que ce soit. C'est là même qu'il meurt et si ce ministère le permet, alors ce ministère meurt avec eux. Ils l'ont essayé sur moi. J'aidais quelques frères au Congo et en 2007, mais quand j'y suis retourné en 2009, ils s'étaient organisés, ils avaient des réunions mensuelles, et un certain ministre prenait le contrôle de ces réunions et il était le gros bonnet et il donnait la question et répondait à la question. Et ils ont simplement laissé les frères de côté. Et donc, les frères ont commencé à se rebeller contre cela. Ils ne pensaient pas que c'était juste. Et donc, je me suis rangé du côté des frères qui avaient. J'ai juste dit, ce n'est pas juste. Chaque mois, il devrait y avoir un ministre différent pour le diriger de cette façon. Cela garde les choses justes. Eh bien, alors ils m'ont invité. Alors, j'y suis allé en 2009 et ils m'ont dit, « Oh, nous n'allons pas vous inviter dans notre église à moins que vous ne nous donniez 1 500 $ pour acheter de la nourriture pour les gens. » J'ai dit, « Eh bien, allez au diable vous et votre argent, parce que vous ne pouvez pas dire à un fils de Dieu ce qu'il doit faire. » Alors, j'ai fini par aller voir quelques frères et ils avaient juste une petite congrégation. Alors, je suis revenu en 2012, et quand je suis revenu en 2012, ce groupe ici à Kinshasa a décidé de se rebeller contre cela. Ils m'avaient appelé leur mentor. Oh, oui, ils suivaient mon enseignement. Et pourtant, quand je suis venu, ils ont dit, nous n'irons même pas aller à sa réunion. Et donc, ils ont boycotté et n'ont même pas dit à leur congrégation que la réunion avait lieu. Comme le dit Matthieu 23, 13, ils n'y entrent pas eux-mêmes, et ils n'y laisseront pas entrer non plus ceux qui veulent y entrer. Ils ne sont pas descendus. Et c'est à ce moment-là que la colonne de feu est descendue dans les trois arcs-en-ciel. N'est-ce pas? Oh, non, excusez-moi, c'est en 2007 que la colonne de feu est descendue, trois arcs-en-ciel. C'est en 2004 que nous sommes allés là-bas pour la première fois. En 2007, ils étaient avec moi à Mabanzen Gungu. Donc, ils savaient que ce que j'enseignais était juste. Et pourtant, ils ont boycotté, parce que j'allais aller à l'église de cet homme, et que je ne leur ai pas demandé. Et ils ont dit, eh bien, nous sommes les plus âgés, nous sommes les anciens de cela. Et j'ai dit, je me fiche de votre âge, je suis plus âgé que vous tous, alors ne me donnez pas ce genre de choses. J'ai dit, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Eh bien, Ils m'ont même traité de tous les noms et de toutes sortes de noms.
Alors,
je m'en fichais.
Alors,
je suis allé là-bas et il y avait tout un tas de gens. Même les voisins ont dit, nous l'avons vu, et ils l'ont décrit.
Une femme, c'était une grande femme. Elle possédait le terrain entre l'église où le feu était la colonne, où les nuées sont restées au-dessus de ces femmes, pendant environ 10 minutes, puis elle est allée à l'église et s'est tenue à environ 3 mètres au-dessus de l'église, et elle a dit, écoutez, j'ai vu tout le 12. Tant qu'elle était à 30 pieds au-dessus du sol. Et quoi que ce soit, a-t-elle dit, c'était vivant parce que c'était comme un orbe ou quelque chose comme ça, comme si elle inspirait et expirait, mais c'était 3 arcs-en-ciel qui se succédaient. Ainsi, même les rochers crieront, dit la Bible. C'est là que ces ministres sont morts et si ce ministère le permet, si je l'avais permis, alors mon ministère serait mort avec eux. Et la colonne de feu continuera sa route. Et ceux qui gravitent autour de l'organisation manqueront l'enlèvement. Tout sera fini très bientôt, mon frère, alors fais très attention à ne pas organiser ce que Dieu est en train de faire. Lâchez prise et laissez Dieu faire ce qu'il veut. Rappelez-vous, il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes pensées sont plus grandes que vos pensées. Donc, nous ne voulons pas de nos pensées. Nous voulons ses pensées. Maintenant, poursuivons avec ce que frère Branham dit ici, parce qu'il définit vraiment l'attitude qui vous permet de connaître les attributs et les caractéristiques d'une organisation. Frère Branham continue, Jéhovah Jiré 9 février 61 p. 49. Je vois là en face de moi l'un des meilleurs historiens que nous ayons dans la nation. C'est vrai. Un historien des historiens est assis ici parmi nous. Et j'aimerais demander à cet homme, ou à n'importe quel autre homme, de me montrer une seule fois où une église s'est organisée sans qu'elle ne soit morte et ne reste morte. Elle ne s'est plus jamais relevée selon l'histoire des églises du monde. Jamais. Dieu n'en veut pas. Dieu veut que nous soyons libres en lui. Il veut que nous arrivions au point où nous pouvons accepter tout de Dieu. Ne restez pas sur cette montagne. Partez de là, postérité d'Abraham. Maintenant vous dites, êtes-vous contre l'organisation? Non, non. Les organisations, ce n'est pas mal, mais le problème est que vous tracez une ligne de démarcation, et vous excluez toute personne qui ne croit pas exactement comme vous. En d'autres termes, le concept est acceptable, où les gens se réunissent. Mais une fois que vous mettez un point après ce que vous croyez, c'est là que vous êtes fichu, parce que Dieu a plus que votre petit point. La chose que nous devons faire, c'est de tendre nos mains aux luthériens, aux méthodistes et à tous, de sorte que nous puissions avoir communion les uns avec les autres, pendant que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Tant que nous n'arriverons pas à ce point-là, nous mourrons tout simplement. Nous restons juste là, rapetissons comme une vieille pomme rabougrie. Et là, vous vous ridez comme une plaque mine, et vous vous asseyez là, disant, eh bien, je suis d'un tel ou d'un tel. Oh! Là là! La vie n'y entre plus. Vous voyez? Nous ne pouvons simplement pas faire cela. Non, nous devons venir pour être en Christ Jésus. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec lui. Eh bien, tant que nous ne nous séparons pas des choses du monde, maintenant, pour en revenir au sermon le chef-d'œuvre, nous reprenons au paragraphe suivant où frère Branham dit, le chef-d'œuvre 5 juillet 6438. Combien ont déjà vu une semence de blé qui commence à pousser? La première petite chose, c'est quoi? C'est tout à fait semblable à la semence, mais c'est la balle. Vous voyez les 3 étapes? La tige, l'aigrette ou le pollen, ensuite la balle. Et alors, de la balle sort la semence originelle. Voyez? Ce n'était pas une semence. C'était la vie de la semence qui se développait à travers ces étapes, pour arriver à former la semence. 13. Amen, amen. Le voyez-vous? Qu'est-ce que c'est? Une résurrection, pour revenir de nouveau à un chef-d'œuvre, pareil à celui qui est tombé en terre. La Pentecôte est sortie de Wesley, parce que Wesley était alors une organisation. La Pentecôte, qui n'était pas une organisation, est sortie, et après, elle en est devenue une. Il devait former la balle. La véritable parole de vie qui était sur elle, Elle est maintenant formée le grain originel, par ses étapes. Elle est passée de la tige, puis, dans le pollen, du pollen, dans la balle, et de la balle, elle a produit la semence. Non, la tige, les graines, la balle, 140 quand ils étaient en vie, ils ont produit, au début de leur réveil, un porteur d'une certaine partie de la vie de la semence, mais, quand ils ont formé une organisation, la vie en est sortie. Toute l'histoire nous le prouve. Aucune organisation n'a jamais produit quoi que ce soit après s'être organisée. Elle était morte. C'est exact. Regardez bien, la vie continue son voyage. Elle continue à avancer. Remarquez, ce qu'elles ont fait, ce que celles-là ont fait, toute, l'histoire nous le prouve que c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour les églises, elles n'allaient plus jamais lui être utiles. L'organisation a été mise au rancard. Tout au long de l'histoire, il n'y a jamais une église qui ne soit morte après s'être organisée. L'organisation est morte, et elle ne s'est plus jamais relevée. Ne le voyez-vous pas? Homme aveugle, ouvrez les yeux. La nature et la parole sont là qui œuvrent en coordination, et le prouvent, ici même, que ceci, c'est la vérité, que c'est la vérité. La vie quitte la tige pour former les graines. À partir de la graine, elle forme la balle, et de la balle, elle sort pour prendre forme de nouveau dans le grain originel. Remarquez, elle n'allait jamais plus lui être utile. 143 c'est quelque chose de vraiment remarquable, cette vie, son voyage dans le grain de blé, il est bien différent de son voyage dans l'arbre. Dieu compare son peuple à un arbre. Voyez-vous, la vie descend dans l'arbre, et elle remonte. Elle descend et elle remonte. Voyez-vous, elle descend et elle remonte. Mais, dans le grain de blé, elle monte, depuis la tige originelle. Elle passe dans la tige, les graines, la balle, et ce qu'elle a traversé meurt, alors elle ne peut plus y retourner. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus d'aucune utilité. Elle poursuit son chemin vers sa perfection. Amen. Ne voyez-vous pas pourquoi il n'a jamais utilisé une organisation? Il ne peut plus y retourner. Elle est morte. Mais la vie continue à passer de l'un dans l'autre. Vous voyez, ils introduisent des credos, et ils injectent. Quiconque ajoutera une seule parole, ou retranchera une seule parole, voyez-vous, il n'y a plus accès. C'est la semence de vie qui doit continuer son voyage. Maintenant, remarquez combien dans ce message du chef-d'œuvre, frère Branham s'en prend à l'organisation. Ce qui est triste, c'est que les gens qui devraient être mieux enseignés finissent par s'organiser autour d'un certain ministère ou d'une certaine personnalité au lieu de s'en tenir uniquement à la parole de Dieu, de se concentrer sur cette parole et de tirer la vie de cette parole. Mais s'organiser, disait-il, c'est la mort, et s'organiser alors n'est pas différent de former une dénomination. Agir ainsi, c'est mourir spirituellement. Même Jésus ne l'a enseigné. Il a dit que ceux qui s'organisent doivent être rassemblés pour être incinérés. Vous ne brûlez pas de choses vertes et fraîches. Vous brûlez de vieilles choses desséchées, que ce soit du bois ou des tiges, ou des balles, ou quoi que ce soit. Le ver montre la vie, et il ne brûle pas facilement. Mais ce qui est vieux et desséché brûle rapidement. 14. Matthieu 13, 24 Il leur proposa une autre parabole, disant, Le royaume du ciel est semblable à un homme qui avait semé de bonnes semences dans son champ. 25 Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Or, voici que frère Branham dormait, et d'autres hommes sont venus, ont semé de l'ivraie, et s'en alla. 26 Mais lorsque le brin sortit, et qu'il produisit du fruit, alors l'ivraie parut aussi. 27 Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? 28 Et il leur dit, un ennemi a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu donc que nous allions la cueillir? 29 Et il dit, non, de peur qu'en cueillant l'ivraie vous ne déraciniez le blé avec elle. 30 Laissez-les pousser tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez, rassemblez, premièrement l'ivraie. Et liez-la en bottes et gerbes, pour la brûler. Mais, assemblez le blé dans mon grenier. Maintenant, vous voyez, ça se passe vraiment, le premier fils de l'homme, je veux dire, le fils de l'homme, c'était Jésus-Christ. Mais ensuite, quand un fils de l'homme qui les a révélés est venu, il a fait la même chose. Il a semé des semences dans le champ. Donc, vous voyez, ça dure depuis 2000 ans et il forme une dénomination, forme une dénomination, forme une dénomination. Et ils le font toujours. Remarquez que Jésus souligne le fait que deux types de vie très différents, semences, seront plantées l'un à côté de l'autre dans le même champ. Dans le champ chrétien. Le champ représente le monde, et le semis est fait d'abord par le propriétaire du champ, puis son ennemi vient dans son champ et mine ses semailles, mais avec une vie différente. Semences. Notez qu'on laisse pousser les deux semences, côte à côte jusqu'au moment de la récolte. Ensuite, il doit y avoir une séparation. Il y aurait d'abord un rassemblement de la semence que l'ennemi a semée. On commencerait d'abord à rassembler les vrais. Jésus utilise le mot déo pour décrire le fait de les lier ensemble. Et, vous savez, je l'ai passé en revue de nombreuses fois, mais je vais le refaire. Le mot signifie en fait lier en mettant sous obligation. En d'autres termes, vous venez à l'église, et ils vous disent, « Oh, est-ce que vous chantez ?» Oh, bien, on vous met dans la chorale. Oh, est-ce que vous chantez? Oh, eh bien, nous avons besoin d'un conducteur de chant. Oh, vous êtes un homme et vous connaissez la Bible et des choses comme cela. Nous ferons de vous un diacre. Voyez, et ainsi, ils vous placent dans l'église. Que font-ils? Ils vous obligent à cette église. Ils ne veulent pas que vous alliez dans une autre église. Ils veulent que vous restiez ici. D'accord? Donc ils sont obligés. Or, ce fait de lier est nécessaire pour contrôler le rassemblement de l'ivraie. Et en plaçant les gens sous obligation, ou en les liant par la peur, les fait sortir de la tension porte à la parole et les oriente vers l'organisation. Ainsi, nous voyons dans cette parabole que l'organisation lie les gens, les empêchant de chercher plus de lumière que ce qui est disponible dans leur église. Cela se fait par le biais de programmes. En d'autres termes, si vous êtes si occupé à enseigner à l'école du dimanche et à chanter dans la chorale, vous n'avez pas le temps de chercher et de voir s'il y a quelque chose d'autre là-dehors. Donc, vous faites avec ce qu'ils 15 ont à vous donner. Regardez chaque grande église et vous verrez que les gens ne sont pas satisfaits de venir écouter le ministre prêcher, mais vous trouverez de nombreux programmes en cours dans ces églises. Nous avons de grandes églises, même dans ce message. Et les gens viennent pour écouter parce qu'ils ont de la bonne musique. Je veux dire, certaines semblent professionnelles. Alors, ils viennent pour un bon moment de divertissement et ensuite ils prêchent la parole 15 minutes, où nous constatons que le prédicateur ne peut pas motiver les gens, alors il les emmène au niveau où il dit, écoutez, dansons autour de l'église. Et donc, il commence à danser autour de l'église pour les motiver. Vous savez, c'est un esprit humain. C'est une dynamo humaine. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Plus la congrégation est grande, plus il y a de programmes pour garder les gens satisfaits. Et donc, nous voyons comment l'organisation, c'est le moyen par lequel l'ivraie est recueillie et rassemblée. L'Église est liée par une fausse parole, et ensuite, en s'organisant autour de la fausse parole, elle rassemble les gens dans un moyen plus efficace et plus rentable, par lequel tout le groupe peut être brûlé. Et ainsi, lorsqu'ils ont capturé la pensée des gens par la peur ou l'organisation, ils amènent les gens à recevoir dans leur pensée une certaine évaluation, ou une certaine évaluation, et cette évaluation ou estimation est leur dénomination. Ainsi, nous devrions voir clairement que la fausse vigne est l'église organisée. Car l'organisation est ce qui les lie ensemble. Alors, s'il en est ainsi, l'un des principaux attributs de la fausse vigne sera sa capacité à s'organiser en nombre et donc à utiliser l'efficacité pour prêcher son faux évangile. La Bible dit que la peur ne vient pas de Dieu. Paul a dit dans 2 Timothée 1, « C'est car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint, de sagesse. » Alors nous pouvons voir par là que d'avoir peur montre que vous n'avez pas un esprit saint. Au paragraphe 118 « Ne t'appuie pas sur ton intelligence » 20 janvier 65 Frère Branham dit, « Vous savez, la Bible dit que vous pouvez croire un mensonge et être damné à cause de ça. Voyez-vous, c'est l'exacte vérité. Il se forme. Qu'importe ce que dit la parole de Dieu, ils s'appuient sur leur propre intelligence. Ils s'appuient dessus, ils y croient, ils pensent que c'est la vérité. Vous pouvez continuer à croire le même mensonge, maintes fois, si bien qu'à un moment donné, pour vous, ce sera la vérité. Regardez tous ces enfants endoctrinés à l'école, et ils pensent, il y a 274 sexes. Ils pensent, et, aujourd'hui je peux être une vache, et demain je peux être un cheval, et le lendemain je serai un chat. Et ils sont fous et ne le savent pas. C'est exact. Mais comment savoir si c'est la vérité ou pas? Dieu a prouvé que c'est la vérité, parce que c'est dans sa parole et qu'il la confirme. Il en donne lui-même l'interprétation. Comment font-ils pour en arriver là? Ils le font à cause de leur culture, comme je l'ai dit, ils ne se coupent pas les cheveux avant l'âge d'un an. Ils le font à cause de leur instruction, de l'intelligence des choses qui leur est inculquée par leur tirer le diplôme de leur doctorat, et ainsi de suite, de tels séminaires qu'ils ont fréquentés et où ils ont appris ces choses. Car d'avoir peur ne vient pas de Dieu. Covid a été une épreuve pour chaque personne sur Terre, pour voir 16. S'ils peuvent vous faire avoir peur ou pas. Et la plupart des gens ont eu peur. Ils ont succombé à leur tactique de peur, et ils sont allés prendre ce qu'ils ne devraient pas prendre dans leur corps. Chaque fois que l'ange du Seigneur venait à l'homme, les premières paroles qui sortaient de sa bouche étaient, « N'aie pas peur. Car je suis venu de la présence du Seigneur. » Nous trouvons aussi dans 1 Jean 4, 18 que l'amour parfait ou l'amour mature chasse la peur. Parce que la peur porte avec elle du tourment, le châtiment. La peur fait des dégâts, car lorsqu'une personne a peur, elle est liée par ses peurs. Nous lisons dans 1 Jean 4. Cet amour parfait ou mature chassera la peur, parce que la peur a une pénalité, elle a à voir avec le fait que vous vous figez et vous cristallisez dans votre pensée. Joseph commença à avoir peur que Marie n'ait pas été fidèle et Dieu envoya donc son ange pour lui dire de ne pas avoir peur de prendre Marie comme épouse. Qu'a fait la peur ici? Cela a fait douter Joseph et l'a amené à cesser d'avancer avec le plan de Dieu pour sa vie. Puis, lorsqu'il cesse de marcher dans la lumière, comme il est dans la lumière, la vie s'éteint et ils se tarissent et deviennent comme la balle que le vent chasse. Jean 8, 12 Puis Jésus leur parla encore, disant, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 1, 4 En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière 29 décembre 63 M 74 Il n'y a donc de vie que par la parole de Dieu rendue manifeste. La vie ne vient que par la parole de Dieu rendue manifeste. Aussi longtemps qu'elle est juste dans le livre comme ceci, on peut encore remettre cela en question. Mais quand c'est rendu manifeste, vous voyez alors manifester le produit de ce dont elle parlait. C'est alors la lumière sur la parole. Voyez? C'est ce qui apporte, quand la parole dit une chose et qu'ensuite cela s'accomplit, c'est la vie dans la lumière apportant la vie. La lumière apporte la vie. Si vous plantez du blé ici, cela va, si vous le mettez dans une cave et que vous le couvriez entièrement, il ne produira jamais quelque chose, parce qu'il ne le peut pas. Il n'y a pas de lumière là. Mais dès que la lumière le frappe, il produira alors la vie, si c'est une semence qui a la vie. Il en est de même pour la parole. Voyez? La parole est Dieu, et quand la lumière la frappe, cela ramène la parole à la vie. Chaque âge a toujours été comme cela. Donc, je veux juste dire ceci. Dieu nous a fait beaucoup, beaucoup de promesses, en particulier en cet âge. Il nous a dit qu'il y avait environ 86 signes et événements différents associés à la parousia, et nous en avons vu environ 82. Pas vrai? Eh bien, si Dieu a promis un cri, qui est un message, puis une voix, puis une trompette. Et si vous faites partie du cri, parce que vous avez déjà identifié ces choses qui se passent tout autour de vous, voyez-vous, Dieu ne révèle sa parole qu'à ceux qui ont le Saint-Esprit. Et en ayant le Saint-Esprit, sa parole vous est révélée. Eh bien, si vous faites partie du cri, n'allez-vous pas faire partie de la voix? Vous voyez? Alors, de quoi avons-nous peur? Nous y sommes presque, frères et sœurs. Nous devrions simplement nous accrocher parce que Dieu l'a dit, nous serons là. 17. Sinon, comment pourrions-nous nous manifester avec lui? Il est la parole. Alors nous devons devenir un reflet parfait de cette même parole afin de nous manifester comme il se manifeste. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Remarquez qu'il a dit, la vie est la lumière des hommes, sa vie est sa lumière ou sa parole. S'il est donc notre vie doit provenir de sa parole.
Alors,
lorsque sa parole se manifestera, notre vie devra aussi manifester la même chose.
Alors,
comme Paul l'a dit, ce n'est pas vraiment notre vie, mais sa vie en nous, qui se manifeste. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et elles sont vie.
Alors,
qu'est-ce que la manifestation? Cela ne peut être que sa parole. Et quelle est la place de la peur? Nulle part. La peur n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Mais la peur est l'une des principales règles qui sont mises en place pour retenir et maintenir un grand nombre de personnes. Prions. Père bienveillant, nous sommes si reconnaissants de ne pas avoir peur, de croire totalement, totalement que tu es aux commandes. Et, Père, nous attendons simplement que la pluie tombe.
Alors,
Seigneur, nous nous consacrons simplement à toi. Nous savons que la porte de l'arche est fermée. Nous savons que nous sommes scellés avec Jésus-Christ. Et donc, Seigneur, nous attendons simplement la prochaine phase. Et nous savons que cela viendra quand tu seras prêt. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et que le Seigneur fasse briller sa face sur vous. Copyright Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2024. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com 18.